Bonsoir et bienvenue pour cette séance de notre programme Écrivain à l'écran. Merci d'être venus si nombreux un soir de fête de la musique. En tout cas, vous échappez à des choses atroces dehors. Nous avons invité ce soir avec Marianne Alphand Alain Weinstein, que on ne présente pas évidemment. Ouais, j'ai quand même signalé son livre Radio Sauvage qu'il a publié cette année. Donc Alain Weinstein a choisi, selon la règle du jeu de notre petit programme, d'évoquer le poète André Dubouchet. Et donc la conférence sera suivie de la projection d'un film sur André Dubouchet avec lui, qui est un document un petit peu rare. Voilà. Donc bonne soirée.
Bonsoir et merci d'être là. Voilà comment les choses se sont passées. Pour ce cycle écrivain à l'écran, une conférence sur un écrivain précède la projection d'un film qui lui est consacré. Marianne Alphand et Omar Berada, il y a plus d'un an, me demandent un nom. Si je donnais le nom, on trouverait le film. Il y avait sûrement quelqu'un dont j'aimerais parler. Le problème, c'est que je n'ai pas la parole facile, surtout s'agissant des discours sûrs. Alors, de qui quelqu'un qui ne parle pas aurait-il tout de même, finalement, le désir de parler ? La réponse ne s'est pas fait attendre. Il y a un écrivain auquel je ne cesse de penser en lisant et en écrivant, 45 ans après l'avoir rencontré, c'est André Dubouchet. Né en 1924, mort en 2001, auteur de près de 30 livres, des poèmes, des réflexions sur quelques artistes et une poignée d'écrivains, Poussin, Hercule Segers, Giacometti, Brambanveld, Pierre Talcoat, Hugo, Baudelaire, Joyce, Reverdy, Pasternak, Ponge, Char, pour citer les principaux, auteur aussi des carnets, auxquels s'ajoutent des traductions, notamment de Shakespeare, Hölderlin, Joyce et Paul Celan, ainsi que des textes publiés en revue, en particulier dans l'éphémère, dont il fut l'un des rédacteurs les plus actifs de 1966 à 1973. Son nom est donc le premier qui me vient à l'esprit. C'est pourtant le dernier à qui je devrais songer pour l'exercice proposé, c'est l'évidence même. Le plus proche risque d'être le plus lointain, le plus difficile, en tout cas, à tenter d'approcher. Et difficile est un faible mot pour qualifier la tâche qui m'attendrait si le projet était mené jusqu'au bout. Mais si je ne renonce pas, malgré tout, à avancer le nom d'André Dubouchet, c'est qu'en vérité, je doute que le projet puisse être mené jusqu'au bout, pour la simple raison qu'il me paraît peu probable qu'un film sur lui figure dans les fonds de la BPI. Telle a été mon erreur. Il existe bien un film sur André Dubouchet qui sera projeté tout à l'heure, Si vous êtes des mots parlés, par Michaël Jacob et Bernard Jourdain. À partir de là, impossible de reculer. Il fallait y aller. Je me trouvais en charge d'un chantier indéfini et d'une ampleur imprévisible. Ce qui fonde la relation si particulière que j'entretiens depuis si longtemps avec André Dubouchet et sa poésie, l'homme et l'œuvre à mes yeux ne peuvent être disjoints, participent de la même éthique poétique, est retenu au fond de moi dans une poigne de fer. J'avais tout d'un coup l'impression de devoir parler, un revolver sur la tempe. Le compte à rebours a commencé dès juin 2009, il y a donc un an. Généralement, on vous demande une note d'intention pour l'heure qui suit, avant même que vous ayez la moindre idée de ce que vous allez pouvoir dire. De quoi vais-je donc pouvoir parler, moi qui accumule de jour en jour des raisons de garder le silence ? L'état d'urgence étant déclaré, voici ce que j'envoie finalement à Marianne Alphand et Omar Berada. En 1964, je fus transi, comme le sont les amoureux. Un livre produisit cet effet, Dans la chaleur vacante d'André Dubouchet. Si je disais 45 ans plus tard qu'aucun livre ne me mit par la suite dans un tel état, ce ne serait pas une façon de parler. Je serais dans le vrai, comme j'eus le sentiment de me frayer un chemin en découvrant Dans la chaleur vacante. Tout se passait comme si se développait, à mesure que je lisais, une photo que j'aurais pu prendre en un autre temps, sans aller au-delà du négatif. André Dubouchet portait en pleine lumière ce qui s'était inscrit dans mes nuits depuis toujours, toutes ces phrases retenues, transies, qui résistaient à mon impatience. Si une fois au moins j'ai dansé avec des mots, ce fut avec ceux de cette poésie-là. Et s'il est une poésie dont j'ai le plus grand mal à parler, c'est bien de celle-là. À l'heure où j'écris ces lignes, je me demande comment, tenu malgré tout de parler, ou à tout le moins de ne pas rester complètement silencieux en public, je vais pouvoir contourner l'obstacle. Un an plus tard, je ne suis pas plus avancé. Toujours partagé entre le désir de faire de ma passion un secret qui doit rester tu, et celui de le crier sur les toits, ne serait-ce que pour ne pas aller dans le sens de ce mauvais silence qui frappe de nos jours les poètes, et celui-ci en particulier. Il y a bien de temps à autre une revue qui se soucie de lui, les 900 pages des deux cahiers de l'étrangère en 2007 par exemple, mais je me suis laissé dire qu'un projet de nouveau volume en poésie Gallimard, qui reprendrait Ici en deux, aujourd'hui épuisé, ne verrait finalement pas le jour pour des raisons commerciales. Sans parler de ces 20 années pendant lesquelles j'ai proposé le nom de Dubouchet pour le prix France Culture, en criant chaque fois dans le désert. Un poète, peut-être, des noms étaient même avancés, plus affligeants les uns que les autres, mais pas celui-là. De bonnes raisons, peut-être, pour ne pas me dérober ce soir. Je ne vais pas, en somme, ressembler à cet explorateur cher à Malcolm Lowry, qui a découvert un pays extraordinaire et ne veut surtout pas en revenir pour faire don au monde de son savoir, quand bien même le nom de ce pays était-il Enfer. Je vais plutôt, une fois n'est pas coutume, essayer d'élever la voix, jouer ma partition, en m'efforçant de dire comment les écrits d'André Dubouchet sont devenus, à un moment donné, l'air que je respirais, le carburant de ma vie, un paradis, en quelque sorte. Mon pays de cœur, si je peux m'exprimer ainsi, et donner un nom à ce territoire de solitude qu'est la poésie, où se rassemble la vie tout entière. Admettons que j'ai préféré le paradis à l'enfer. Il ne me reste plus qu'à passer à l'acte, c'est-à-dire à réunir des traits épars arrachés à leur dispersion. D'autres commentateurs ont exploré, exploreront encore, je l'espère, les déterminants de cette poésie, ont tenté d'en dénouer les nœuds les plus serrés. Je vais, pour ma part, essayer de témoigner de mon éblouissement, c'est-à-dire de ce qui généralement ne se dit pas, le lien, l'affection pour l'homme, l'admiration pour son œuvre, où l'intelligence et la sensibilité sont indissociables, une approche sentimentale, je ne le cache pas, pas érudite pour un sou, même si je n'ignore pas que les sentiments ne se paient pas de mots, que la parole face à eux reste démunie, sauf à laisser parler son cœur. Laisser parler son cœur. Si j'y arrive, ne serait-ce qu'un peu, pour moi, ce sera beaucoup. Ce sera, au fond, comme une lettre. Cette lettre, souvent commencée, jamais écrite jusqu'au bout, toujours refoulée, car impossible à écrire, sauf à être Franz Kafka. Une lettre en 1000 morceaux, réduite à ces éléments épars auxquels je faisais allusion, réunit l'espace d'un soir avec l'espoir de ne pas avoir lâché la proie pour l'ombre, histoire de me sauver la face, tout en sachant qu'assembler des traits ne restitue pas un visage. Cette lettre, mettons que c'est à vous qui m'écoutez que je l'adresse. C'est à vous que je dis combien j'ai aimé cet homme. Combien je me suis précipité sur chacun de ses livres, attendu fiévreusement. Combien je lui suis redevable. Dire, tout d'un coup, à voix haute, lui disparu, ce que je n'ai jamais su lui dire les yeux dans les yeux ou dans l'isoloir d'une lettre. Laisser entendre, chemin faisant, ce que représente une démarche comme la sienne dans un monde comme le nôtre. Je m'y suis essayé une fois, à la fin d'un poème, le déplacement des lignes. Je racontais un rêve que j'avais fait. Du boucher revenait parmi nous, et je ne trouvais rien de mieux à faire que de lui soumettre le manuscrit que je venais de terminer, où il était question de l'état de ce monde et de la place faite à la poésie. Il préférait rentrer séance tenante chez les morts. Il suffit pourtant de le lire pour se rendre compte comment les mots d'un poète, leur agencement, leur rayonnement peuvent déployer devant nous une réalité plus sûre que celle que nous tenons pour vraie. Le lire, s'adresser à la poésie pour l'illuminer à partir d'elle-même, lui écrit Jean Hélion dans une lettre de 1955. La disséquer, la démembrer, c'est la faire taire, c'est tourner autour, à vide, en rond. Manquer le rendez-vous avec la pleine présence du poème. Pas de prise pour ce qui est sans antériorité, ce qui vient de nulle part. Lire, c'est être livré à soi-même et se garder de mettre des mots là où il n'y en a pas. Je lis dans carnet, alors que je suis au désespoir d'arriver à dire quoi que ce soit, ce dont je ne peux pas parler, il faut le laisser briller. La lecture, le commentaire, n'ont presque plus rien de commun avec leur point de départ. La moindre citation, je viens d'en donner un exemple, vaut n'importe quelle tentative d'élucidation. Je prends au hasard un livre de Dubouché dans ma bibliothèque, et à quelques pages que je l'ouvre, il n'est pas une phrase qui ne porte un coup fatal à ce que je croyais pouvoir échafauder. C'est mal parti, mon histoire. La poésie résiste, veut sauver sa peau. C'est la vie même de la poésie qui se défend. Les traits ne composent pas un visage, je viens de le dire. Je ne restitue pas un visage en parlant comme je suis en train de le faire. Je brouille une image en m'enlisant dans des brouillons où j'aurais tant voulu mettre au clair un passé déjà bien attaqué par la nuit. Dire par exemple le choc de la rencontre en 1964. J'avais 22 ans. Je venais de me marier. Je n'osais pas le lui dire, tant cela me paraissait révéler une part trop prosaïque de moi-même que je voulais lui cacher, un côté « nous deux » ou « intimité ». Il fallait à tout prix que je sois conforme à l'idée que je croyais qu'il se faisait de moi, un jeune homme reclus dans les solitudes de l'écriture. J'ai eu ainsi au moins deux autres fois la honte de ma vie. La première, en le rencontrant du côté du parc Montsouris, en tenue de jogging. La seconde, dans ce même quartier où nous étions voisins, quand il me rapporta avec une ironie mordante que le boucher lui avait parlé de moi en m'appelant l'écrivain. Mais j'anticipe. Voilà maintenant que je brouille les pistes. Je n'en suis pas encore là dans la chronologie. Pour moi, André Dubouché, ce fut d'abord un nom qui m'évoquait une sorte d'aristocrate impérieux. C'est Yves Bonnefoy, que je voyais beaucoup à l'époque, qui en parlait souvent dans nos conversations, comme de l'un de ses rares contemporains, celui qui lui était sans doute le plus proche. Blaise Gauthier également, et j'ai plaisir à citer ce nom ici car Blaise Gauthier fut le premier responsable au Centre Pompidou des revues parlées. Mais là, il était le rédacteur en chef du Mercure de France et il le citait volontiers. Mais je m'en souviens, en baissant la voix, comme s'il s'agissait d'une autorité redoutée. Yves Bonnefoy avait transmis à Blaise, pour la revue, le manuscrit de mes premiers poèmes, et leur éventuelle publication se faisait attendre. C'est André, finalement, qui prit la décision et fut chargé de la sélection. Il était temps que je le lise. J'allais, à la joie de lire, ma librairie favorite, me mettre en quête des titres disponibles. Je rentrais avec un beau butin, sans couvercle, et Le moteur blanc, paru chez GLM, Dans la chaleur vacante, le grand livre de 1961 au Mercure de France, et la traduction chez le même éditeur de La tempête de Shakespeare. Je peux dire que c'est à la lecture de ces livres que tombèrent toutes mes réticences à l'égard de la poésie comme genre littéraire, sur lequel je ne cessais de m'interroger, avec des doutes sérieux, même si j'affectais de m'y essayer. C'est la force d'évidence de la poésie que je découvrais, le témoignage de sa dignité. J'avais le sentiment de lire ce que je cherchais désespérément à écrire. C'était juste ça, vraiment ça, la beauté dans toute son intensité. Ma lecture enrayait le mal qui me menaçait, ce manque de confiance, pour ne pas dire de croyance, dans les possibilités de la poésie. S'ouvrait soudain à moi et à ma pratique d'écrivain un modèle qui avait su élever la poésie au plus haut degré de présence. Tout ce que j'avais entendu dire sur cette poésie me semblait relever de l'affabulation et de la calomnie, qu'elle était obscure, illisible par exemple, qui entrait, c'était comme essayer de nager une pierre au cou. Mais avec quels yeux la lisait-on. Tout poème est a priori illisible, puisqu'il a rendez-vous avec l'inconnu et est toujours un commencement. Derrière l'idée d'illisibilité, disait-il, il y a eu le vœu de quelque chose de conforme à l'idée qu'on s'en est déjà faite. S'il n'y a rien de nouveau à dire, le poème n'a pas de raison d'être. Il a donc partie liée avec l'obscurité. Qu'est-ce qui pousse les gens, se demandait André Dubouchet dans un entretien, à s'accrocher aux évidences acquises? C'est qu'un poème, répondait-il, quand on le lit, vous oblige à tenir debout tout seul. Et c'est exactement mon expérience à la lecture de Dans la chaleur vacante en 1964. Je découvre des poèmes qui m'aident à tenir debout. Pas des poèmes chargés d'un sens enrobé, allusif, évocateur, allégorique, mais inscrits dans la matière même du mot arraché à la chair de la vie et qui semble répondre à ce qui est en moi. Je tourne les pages de Dans la chaleur vacante et je ressens d'emblée la force de ces poèmes, leur beauté poignante qui me prend à la gorge. Rien d'aride dans ces pages où l'émotion, au contraire, perce de bout en bout. Pas d'autre obscurité que celle qui s'est logée en moi. Nous ne nous quittons plus désormais. Je ne respire plus que son air solitaire. Sa place n'est pas dans ma bibliothèque, mais sur ma table, toujours à portée de main, car sa force d'attraction ne se dément pas. Comment en irait-il autrement ? Son tracé impeccable, sans aucune baisse de tension, la clarté de ses contours bien découpés, l'autorité de la voix qui porte les lignes de la première à la dernière, fondent dans la chaleur vacante un livre sans pareil. Tellement ancré dans ma vie que j'ai l'impression, à chaque lecture, de me déplacer dans la réalité. C'était la première fois. Bien d'autres suivront à la faveur des nouvelles publications. Et ce sera toujours le même charme envoûtant, la même force aveugle de l'évidence, le même pouvoir de sidération, la même fraîcheur, au point à chaque fois de me précipiter sur le livre pour rapidement ralentir, freiner des quatre fers, dans le désespoir d'arriver à la fin. Si seulement les livres d'André Dubouchet pouvaient ne jamais finir. Vœu exaucé d'une certaine façon, c'est sans doute un seul livre, inachevable, qu'il a écrit de livre en livre. Chaque fois, après tout, il s'est agi pour lui de commencer. Continuer et commencer sont à peu près synonymes. De faire pièce au noir de la fin avec la complicité des blancs. Dans un constant renouvellement sur fond d'absence apparente de changement. Des mots, donc, les mots d'un poème peuvent offrir un socle sur quoi s'appuyer, venu du fond du langage, aussi détenteur d'absence soit-il. Ils peuvent lutter contre l'usure des jours, offrir des moments qui bouleversent le temps. Bouleverser. Il m'arrive de lire certaines pages avec une émotion qui me mène au bord des larmes. Je pleure même comme au cinéma à la lecture de Fleurs dans L'Inhabité, l'une des séquences d'Où le soleil. Où le soleil, livre de commencement s'il en est, que je n'arrive pas à dissocier de ce soleil de feu qui brûle sans partage du côté du Harare, où le geste de Rimbaud s'est éteint. Ce livre, pour moi, mettrait donc du commencement là où a surgi de la fin. De la lumière aussi, l'évidence de la clarté, là où l'on a tôt fait de prétendre n'y voir que du feu. Ces poèmes illuminent si intensément de leur lumière que tout le reste, tout le dehors, se renverse dans l'ombre. Dans la chaleur vacante, ou le soleil, jusqu'à la découverte de ces livres, je n'avais jamais éprouvé à ce point la puissance d'affirmation de la parole poétique. Les poèmes résonnaient en moi, un à un. J'étais abasourdi par tant de proximité. Nous étions dans le même monde, le même rythme. J'avais désormais une attache, un présent, à défaut de passé, un présent tendu vers l'avenir caché dans la trame vive des pages, trahi par la dynamique qui les anime. Des livres me racontaient ma vie, libérée de tout ce qui m'en séparait. Je me laissais envahir par ce que je lisais. Les événements se succédaient, surgissaient de l'imprévu, qui d'une phrase à l'autre renouvelait l'attrait de la lecture, lui insufflait de la vie. Il se passait enfin quelque chose. Tout me paraissait nouveau, unique. J'étais convaincu d'être impliqué dans ce qui survenait comme si les textes avaient préexisté en moi et qu'en les lisant, je les retrouvais à l'image de ces photos longtemps oubliées qui restituent souvent des êtres et des jours qu'on croyait à jamais disparus. Alors qu'un fossé s'était creusé entre ma langue et moi, que j'avais l'impression de me trouver en terre étrangère, muni de peu de mots et qui n'avait plus cours, cette poésie me rendait une langue, déclenchée de la langue, sans que je me demande si elle était vraiment la mienne. Je pouvais de nouveau respirer, la tête hors du silence. Ainsi, je me suis trouvé des racines dans des livres. Je me suis avancé dans le réel à partir d'une fiction. Aussi loin que possible de moi, lit-on dans Météore, ce poème de Dans la chaleur vacante, si souvent cité et commenté. L'absence qui me tient lieu de souffle recommence à tomber sur les papiers comme de la neige. La nuit apparaît. J'écris aussi loin que possible de moi. Comment entendre cette sorte de profession de foi rapprochée par Antoine Emmaz dans sa monographie brève mais qui va au plus près, parue chez Jean-Michel Place, d'autres phrases relevées dans les carnets. Je n'aurais jamais assez disparu, ou encore, il faudrait pour bien faire que je ne sois pas là. Faut-il y voir une adhésion à la poétique malarméenne du tombeau qui exige du poète sa disparition dans l'œuvre pour lui permettre de naître de l'œuvre, justement, dûment sacralisée et la littérature à travers elle? Le moi devrait-il se résorber dans une conscience impersonnelle? André Duboucher note dans un carnet cette citation de Plotin « Pour voir, il faut perdre conscience de soi. Avant de parler de moi, la poésie parle d'elle. L'un s'appauvrit pour enrichir l'autre. Le je du texte, première personne insistante dans les poèmes, gagne ce que le sujet écrivant perd dans le flux de la vie. Les deux instances jouent à qui perd gagne. C'est pourtant la première qui donne à la seconde la justification de sa vie en transformant l'écriture en expérience intime. Encore faut-il qu'elle prenne son sort en main sans aller se perdre dans le langage, qu'elle laisse le poème parler seul dans l'imprévisibilité du langage. Loin de soi peut alors devenir près de soi, le plus près possible de soi. Une nouvelle fois, j'ouvre Dans la chaleur vacante mon livre, le livre fondateur. j'essaie de prendre mes distances, de le lire aussi loin que possible des jours de la découverte, quand l'identification était telle que j'ai dû donner un brutal coup d'arrêt, de peur d'abandon à la seconde main et au risque de tout faire disjoncter. Je ne suis pas le seul, certainement, à avoir fait cette expérience de l'impasse dans laquelle entraîne pareille proximité avec son désir. Mais je le lis. Je n'y suis pour personne. Les phrases m'emportent, me projettent là où je ne suis pas, pour en définitive me ramener au plus près de moi, m'ouvrir les yeux sur celui que je cherchais sans le voir, dissiper peu à peu les zones d'ombre. C'est comme si le monde était à ma portée. Je me mets en marche avec l'écriture. Je suis le mouvement de l'écriture, son rythme. Elle et moi, nous sommes en accord, à entendre dans tous les sens, à commencer par le sens musical. Devant ces pages, je suis comme devant un monde qui me serait ouvert absolument, pour reprendre ces mots d'André Duboucher adressés à Paul Celan, à la lecture d'un de ses livres. L'homme, André Duboucher, était aussi impressionnant que ses écrits. Après qu'il eut choisi quelques-uns de mes poèmes destinés au Mercure de France, ils parurent en 1965 dans le tout dernier numéro de la revue, j'ai évidemment voulu le rencontrer. Nous nous sommes vus à de nombreuses reprises, d'abord rue des Grands Augustins, puis dans les différents appartements qu'il habita par la suite, où il transportait ses tables et accrochait ses Giacometti. J'allais même une fois à Truinas, au début de son installation dans cette maison, qui fut, je crois, son vrai lieu. Parfois, nous nous donnions rendez-vous au restaurant. Il appréciait particulièrement les plats qui ne mentaient pas, d'inspiration plutôt paysanne. C'était chaque fois une joie, dans tous les cas, de le retrouver. Et pour moi, toujours, d'une certaine façon, l'heure de vérité. Être en représentation avec lui, être celui qu'on n'était pas, était inconcevable. J'avais l'impression que le moindre écart serait immédiatement décelé. Face à lui, il fallait être le plus près possible de soi. L'écouter, c'était repartir de zéro, réapprendre à lire et à écrire. Je n'en menais pas large la première fois. J'avais peur de le décevoir, de ne pas savoir répondre à sa rectitude farouche. Il y avait quelque chose d'un peu abrupt dans l'accueil. J'avais tellement peur de dire des banalités, tout me paraissait banal à côté de ce que lui pouvait dire, que je ne disais presque rien. Impossible de trouver mes mots. Mes phrases se désagrégeaient avant d'être dites. J'étais le chanteur qui vient de perdre sa voix. C'était lui, par la force des choses, qui parlait. Sans chercher d'ailleurs le moins du monde à meubler la conversation, souvent troué de longs silences. Lorsqu'il parlait, c'était dans une sorte d'élan, en commençant par une attaque. Il bégayait parfois, donnait l'impression de bredouiller plus ou moins, mais il ne cherchait jamais ses mots. Son débit était un peu saccadé, et par l'intonation, il soulignait certains mots. Il lançait toujours le mot juste, en tout cas, parmi toutes les nuances possibles. Parfois le mot le plus rare, celui qu'on ne s'attend pas à entendre dans une conversation de cette sorte. Dans les silences, ses grands yeux gris, aux sourcils fournis et arqués, vous fixaient, guettant une réaction de votre part, ou se perdait dans les lointains pour revenir brusquement sur vous, son regard pouvant passer de la dureté à la douceur. Il y avait certainement en lui, en effet, la coexistence de ces deux qualités. Il n'était pas avare, par exemple, de jugements sans appel, de saillies parfois cruelles, souvent éblouissantes, et maniait l'ironie sans relâche, de la même façon qu'il cultivait volontiers le paradoxe. À d'autres moments, à travers des phrases poignantes, il laissait parler l'émotion, la tension, l'enthousiasme, en puisant dans ses étonnantes réserves d'énergie. Et de visite en visite, j'apprendrai à aimer son intransigeance, ses fulgurances, la liberté absolue dont il faisait preuve comme homme et comme écrivain. Je n'ai jamais entendu se soucier d'une quelconque reconnaissance. Je ne suis pas sûr qu'il lisait les articles que la presse pouvait consacrer à ses livres. Les seuls commentaires qui éveillaient sa curiosité étaient ceux qui lui apportaient un autre regard sur ce qu'il écrivait. Autant dire qu'il n'était pas légion. Écrire restait son souci. Le livre apparaissait comme le champ d'une lecture possible, ouverte à d'autres lectures et à d'autres livres. Il devait répondre à son exigence de rigueur, sans considération des contraintes éditoriales qui viendraient entraver sa liberté. Pour moi, cet esprit si libre deviendra le modèle inimitable, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Burgard. L'instance idéale, le surmoi, dirait le premier psychanalyste venu. Un ami, en tout cas, pour qui j'aurais un peu plus que de l'affection, mais que jamais je ne tutoierai. Dieu, on peut le tutoyer, paraît-il. Lui, il n'en était pas question.
À l'arrêt. Dehors, mais vide le dehors. Aujourd'hui, entrailles et poumons dans le grand froid, à côté de la porte, comme un torchon accroché. Passer dehors. La neige n'a pas été écorchée. Mais dehors, une bête à nouveau le dehors, et le croc du vide au déboulé. Tête traversé encore par ce qui plus loin emportera. Toi-même, si tu as pu parler, remuer une fois encore.
Le 21 novembre.
Neige, un instant ce souffle de la neige. De son propre poids, et comme un peu plus haut, alors accroché. Mais, dehors, sans l'avoir arrêté, je ne peux pas. Comme avalanche de l'air ressurgit. Tu as accroché le vélos, immobile animal des mots, emporte. Plaqué à terre, peu après, en pièces, comme entre terre et soie la neige, par plaques et plaques enfuies. Le dehors, le tout petit, du dehors lui-même comme l'autre jour une bête sortie et ressortie. Tu avances, cela n'a pas bougé.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est une lecture qu'André Duboucher a faite à la librairie Tchan. C'était le 21 novembre 2000, donc quelques mois avant sa mort. C'est sa toute dernière lecture. Et il lisait « À l'arrêt », qui est le poème qui ferme le tout dernier livre qu'il a fait paraître, « Tumulte ». Sa voix. Comment, à son écoute, ne pas être aussitôt saisi par son accord avec ce qu'elle dit. Texte et voix avancent de concert, font corps lorsqu'ils se rencontrent. La voix accentue tel ou tel mot, glisse plus rapidement sur un autre, fait entendre les blancs. Prononcer un mot, c'était pour lui remonter jusqu'à sa source, à l'étymologie qu'on pressent sans la connaître. On déborde la signification, disait-il, on la soustrait aux bornes de ce qu'on a voulu dire. Le sens fluctue dans tous les sens. Il n'est pas donné une fois pour toutes. Le mot ne dit jamais deux fois la même chose. Mais l'accent de la voix, sa gravité, la frappe de son ton, ses résonances sont inhérents au texte lui-même, tant Duboucher était attaché à rendre la sensation physique du mot. Il insistait sur la réversibilité entre le dehors et le dedans. Si ce qui est de mon intériorité se renverse ou est exprimé, notait-il, cela acquiert une assise objective, extérieure par le langage. La voix intérieure est l'axe de cette réversibilité qu'il faut considérer comme un processus de clarification. C'est elle qui va, dans la lecture à haute voix, se porter au dehors, porter telle ou telle page au dehors, en faisant en sorte que soit compréhensible ce qui, à première vue, ne l'est pas. Il m'est arrivé souvent, je cite un entretien, d'entendre dire des gens qui m'ont entendu lire, « Quand on vous lit, ça paraît souvent hermétique ou obscur. Quand vous le dites, ça paraît très clair. » On ne se pose pas de questions. Son commentaire, c'est que je fais à ce moment-là, en lisant à haute voix, un travail que souvent le lecteur ne fait pas lui-même. Si vous lisez à voix haute un texte qui vous paraît obscur, un poème ou une prose de Mallarmé, si vous faites l'effort de le prononcer, cela s'éclaire immédiatement. La voix éclaire ce qui se cherche. Prononcer ce qui s'écrit, c'est le rendre au concret. Le mot devient la chose. Les mots ne sont pas que le meurtrier de la chose, écrit François Gantret dans La nostalgie du présent. Ils peuvent aussi emporter la chair. C'est le renversement qui se produit, encore un effet de réversibilité, quand bien même pressent-on en écrivant que le mot ne sera jamais la chose. Mais la réversibilité déplace le désir. Les mots font entendre leur voix et exercent leur pouvoir de séduction et de capture. Ils absorbent l'énergie, l'intensité de la chose se part de sa beauté, peut-être de sa magie. Mots de tous les jours, soustraits à leur usage courant, habités par une part d'inconnu, où le banal et l'exceptionnel se rejoignent. C'est une question d'air. Il ne s'agit pas de leur donner une valeur supérieure, de les idéaliser, mais de leur insuffler l'air qui leur manque, qu'ils nous restitueront à leur tour. L'air leur donne du poids, de la densité, une force matérielle, indice de leur vivacité. Peu d'écrivains sont allés si loin, je crois, avec si peu de mots. Pas un mot de trop, des mots vécus, comment le dire autrement, soustraits à la gangue du convenu. En eux, le reflet de la chose apparaît en pleine lumière. Ce qui n'est pas là est rendu visible. Ça n'a l'air de rien, mais ce n'est jamais gagné. Les mots surgissent d'une langue d'obstacles qu'il faut affronter sans relâche, ni gîte ni refuge. C'est sans couvercle, à ciel ouvert, en plein air, comme le suggèrent ces titres de poèmes. À chacun sa terre, à chacun sa route, vers d'improbables retrouvailles, il faut toujours faire un pas de plus. Il n'y a pas de pas gagné, je le répète, mais un pas encore, et le mot entre dans la danse sur la piste de la page. Il dessine une chorégraphie au lieu de tourner en rond. Il y a de la grâce dans l'air. La grâce ne tombe pas du ciel. La langue, au départ, est un milieu hostile. André Dubouché le rappelle souvent dans les entretiens. Elle n'est jamais quitte avec l'obstacle qu'il faut sans cesse surmonter, c'est-à-dire surprendre, prendre par surprise, de façon accidentelle. L'hostilité de la langue et l'absence totale de maîtrise du locuteur, à l'entendre, remontent à l'enfance et y renvoient, si jamais la voix de l'enfant, comme l'a écrit Louis-René Desforêts, ne se tait pas en nous. Toute une enfance, pour André Dubouché, vécue sur fond de rumeurs de langues étrangères, l'anglais, le russe, l'allemand. Plus tard, aux États-Unis, il ne fera aucun usage social du français. Le français, a-t-il confié dans un entretien, restait pour moi une langue de perception que je pouvais ressentir à un niveau élémentaire. D'où, peut-être, le dénuement de sa poésie, toujours tournée vers l'élémentaire, le rudimentaire, toujours à la merci des obstacles de la langue quand elle ne se confronte pas à une impossibilité de langue. « Je tire à moi une langue perdue, » disait-il. La langue est à conquérir mot à mot. Si je tiens les mots, l'être suit. Il y a de quoi en être affecté de tous les vices de la parole. Mais surtout, il ne faut pas se retourner, il ne faut pas regarder en bas. Même pas prendre un autre mot. Le même mot dans une autre phrase et le paysage est transformé. Le tournant découvre une vue nouvelle. Parfois, dans la phrase suivante, André Dubouché reprend le fil là où il a été rompu, où le mot a laissé un vide. Il le noue, le dénoue, fait saigner la réalité sur son tranchant, communique les mois de la vie. Il n'est pas besoin de beaucoup de mots. Trop de mots conduiraient, paradoxalement en apparence, à un amenuisement de l'être, à un appauvrissement. Un seul mot est pour lui un nœud dans le vif. Seule la relation directe avec certains mots, dont il est inutile d'aller chercher le sens dans le dictionnaire, leur donne chair et sang dans une approche sans cesse recommencée, d'où surgissent chaque fois des sensations inédites. Mots poussés à bout, chauffés à blanc, débusquant des points limites dans la versabilité infinie de la langue, pour parler comme Novalis, puiser à la langue qui est épuisée, lit-on dans Axial. Et cette langue, pleine de silence et d'âpreté, radicale, impétueuse, dépourvue d'ornements, sans arrière-plan psychologique ou métaphysique, uniquement véhicule d'énergie, de force, d'éclat, d'intensité, André Dubouché la tient d'une main de fer. À l'heure de l'épuisement de la langue, ce n'est pas une mince affaire que de faire maintenir debout quelques mots et de s'y tenir, de les suivre à la trace, de trouver avec eux un accord, de les faire sonner juste, de vibrer avec eux dans leur résonance, d'épouser leur rythme dans sa vigueur et sa légèreté, deux mots que j'emprunte à Jacques Dupin. Certes, ce ne sont pas que des mots, mais des mots portés à l'incandescence d'une parole vraie, irréductible au seul langage. La poésie atteint l'éclat du mot comme si nous le déchiffrions pour la première et peut-être l'unique fois. Sur le fil menacé de la langue, elle trouve un équilibre qui permet à la réalité de tenir et même parfois de s'intensifier. Dans les mots, la poésie fait palpiter la vie. Le va-et-vient du souffle leur imprime son rythme, sa cadence. Pesé de tout son poids sur le mot le plus faible, pour qu'il éclate et livre son ciel, écrit André Dubouché. Des paroles d'ouverture, selon le philosophe Henri Maldinet, qui a si souvent commenté Dubouché, et pour qui le passage de la rupture à l'ouverture constitue l'essence de cette poésie, en laquelle s'accomplit l'essence de toute poésie. Poème. Les poèmes d'André Dubouché. Des éclats fusent, s'évanouissent dans l'air, recomposent des archipels avec des îles de plus en plus petites, tout un travail de miniaturisation. Impossible de ne pas penser parfois à ces minuscules figurines auxquelles aboutissait à un moment Giacometti, pas plus de 3 cm de long, à peine l'épaisseur d'un doigt. La proximité des démarches du poète et de l'artiste, attestée par de nombreux textes de Dubouché, de qui n'est pas tourné vers nous à Alberto Giacometti dessin, a été maintes fois soulignée. Elle m'incite à ouvrir une parenthèse sur les blancs, si emblématiques de cette poésie, que tout poète qui en fera usage par la suite lui sera aussitôt apparenté. Pour évoquer les blancs d'André Dubouché, je vais, référence inattendue, j'imagine, citer Patrick Modiano. Dans son dernier roman, L'Horizon, le personnage principal, un certain Bosmans, retrouve un ancien cahier du temps où il essayait d'écrire une sorte de roman. Il remarque que l'écriture occupait les marges et qu'il écrivait sans jamais aller à la ligne ou à la page et qu'il n'y avait dans ce manuscrit aucun espace blanc. C'était sans doute sa manière à lui, commande Bosmans, d'exprimer un sentiment d'asphyxie. Dubouché, précisément, parle de la blancheur de l'air. De tout l'air surgit, pour commencer, dans les intervalles. Les blancs, lit-on dans un entretien, sont des intervalles qui déterminent la scansion du texte. Cette scansion suppose des intervalles qui sont comparables à ceux du pas d'un marcheur qui marche. On appréciera la comparaison, non seulement en se souvenant de l'homme qui marche, la sculpture de Giacometti, mais aussi de la relation étroite qui lie chez André Dubouché l'écriture et la marche, en particulier l'écriture des carnets, sorte de soubassement de l'écriture poétique. En attendant, les intervalles contribuent au rythme, dont j'ai dit l'importance dans cette écriture, La parole s'y fait invisible, sans rien perdre de son rythme. Elle ne se distingue pas de la musique où les blancs, je le rappelle, sont nommés silence. Elle est soutenue par le blanc qui lui permet d'atteindre sa plénitude. C'est le blanc qui ouvre des lignes de fuite vers l'horizon, nous retrouvons le titre de Modiano, c'est-à-dire peut-être simplement vers le mot suivant. Le blanc, pour Henri Maldinet, est le support de tout advenir, un vide devenu une ouverture qui est sa propre éclaircie. Il est, dit Dubouché lui-même, assiette de la parole future. Rien à voir, par conséquent, avec un élément décoratif. Le blanc n'est pas une ponctuation singulière destinée à rompre la monotonie de la mise en page. Les vides comptent autant que les pleins, pour reprendre la formule d'Henri Laurence. Le blanc est une matrice de langue, un foyer d'intensité à venir. Il est également un conducteur de lumière, traverse le mur des mots en se jouant du noir de l'encre et en vivant de lui. Personne n'avait encore si unanimement, si musicalement questionné le vide, résume Jacques Dupin, ni fait surgir de l'écrit le blanc augural et fondateur, c'est-à-dire l'énergie de l'air engouffré comme une armature prégnante et invisible, une respiration entre les affects et les fragments détournés de la langue. Quant à André Dubouché, voici ce qu'il disait lui-même du blanc dans un entretien de Poésie ininterrompue, l'émission de Claude Royer-Journoux. Nous sommes en 1976 et il s'adresse à Pascal Quignard. Il est ce qu'à tout instant on peut voir entre les mots, à côté des mots, dans leur trame même, comme antérieur à la parole, lorsqu'elle vient à s'imprimer, la relayant, l'étayant. C'est le corps du mot, une phrase s'y articule, portée à son plus haut degré de tension. Les poèmes sont dispersés par le blanc qui les recompose à nouveau. Entre densité et fluidité, ils parcourent les vestiges d'un monde qui ressemble de moins en moins à celui entre les murs duquel nous vivons. Ils dressent le constat d'un monde aride, pour ainsi dire inhabité, quand un muet ne s'y est pas fourvoyé. Pour autant, ils ne sonnent pas le glas. Le poème, c'est du commencement, répète Dubouché. Le lieu d'une perpétuelle renaissance, objet et sujet d'une reprise sans fin. C'est le visage sur lequel jour après jour revient Giacometti, convaincu qu'il ne l'approchera jamais et qu'il lui faudra s'en tenir aux essais, qu'il ne tiendra que par les essais. L'infini et l'inachevé était le titre d'un article sur Victor Hugo que Dubouché a donné à la revue Critique en 1951. La terre immense se déverse et rien n'est perdu. C'est à la première page de Dans la chaleur vacante. Il a l'apparence, ce lieu du poème, d'un paysage qui se déroulerait en ellipse, identifiable par les lecteurs à qui tel ou tel élément rappellerait une trace familière, induite peut-être seulement par la récurrence de certains mots. Mais loin de les ramener en arrière, vers le familier, les mots les porteraient, quoi qu'il arrive, vers l'avant, là où on ne sait jamais ce qui nous attend. Dans « Aujourd'hui, c'est », nous lisons « Mais le mot est en avant. » Si c'est du mot que je pars, la terre suit. Il y a tension du mot vers l'avant, vers ce qui nous dépasse, et c'est ce qui nous dépasse qui donne lieu à la poésie. Baudelaire ne dit pas autre chose lorsqu'il nous enjoint d'aller au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Et pour Dubuchet, l'inconnu et la langue ont partie liée, ce qui met la poésie à la portée d'une autre réalité. La poésie passe par le langage nécessairement, mais sans s'y arrêter. C'est ce qu'il notait en présentant sa traduction de Finnegan's Wake. Ce que nous lisons déborde la lettre, c'est la chance poétique. Et ce qui déborde, c'est ce que Proust, ajoute-t-il, appelle une autre réalité transparente sous la phrase. Dans un carnet, Dubuchet l'exprime différemment. Poésie, qu'elle ne tienne pas lieu de, mais soi, et même sans lieu. Le blanc, dont nous venons de parler, contribue beaucoup à l'impact visuel des poèmes, surtout depuis « Où le soleil » en 1968. Ceux-ci ne sont pas centrés sur la page comme des condamnés dos au mur. Les mots sont sortis de la ligne et, je l'ai dit, dessinent une chorégraphie dans l'air. Un accord inédit est proposé entre la respiration des poèmes et leur forme typographique, entre la progression active du sens et la disposition des mots dans la page, selon Jean-Pascal Léger, qui a étudié la préoccupation de l'espace chez Dubuchet. Des découpes, des creux, des interstices, des arrêts, ce sont les points d'appui des reprises de la parole, observait-il, des rapports de l'échange, quelque chose que le plan matérialise dans l'espace du livre. L'impact sonore n'en est pas moins fondamental chez Dubuchet. Les poèmes se prêtent autant à la lecture silencieuse qu'à l'écoute. Il suffit de l'écouter les lire à voix haute, comme nous l'avons fait tout à l'heure, pour s'en convaincre. Antoine Aimaz a tendu l'oreille et a été frappé, il le dit dans sa monographie que j'ai déjà citée, par sa diction très claire, nette, ferme, mais sans emphase, comme s'il suffisait de s'appuyer sur le tissu sonore présent dans le texte, et notamment sur les consonnes. Et à partir de l'analyse des quatre dernières lignes du poème « Le moteur blanc », il montre qu'il y a bien une construction dynamique du texte sur le plan musical. Il observe que le rythme est produit par la syntaxe et que, sous le mouvement de la phrase, le tissage sonore fait la chair même du texte. Il s'ensuit, conclut Aimaz, que c'est bien une parole poétique qui nous est adressée, tout autant qu'une écriture ou une mise en espace. Une parole rare, pas un jeu de langage bouclé sur lui-même. Je ne voudrais pas que le langage se referme sur moi, confie-t-il dans Ici en deux. Le dernier livre d'André Dubuchet, il le reçoit à l'hôpital, peu de temps avant sa mort, s'intitule « Tumulte ». Et le précédent, un an auparavant, on rapprochera les deux titres, « L'emportement du muet ». Il est commenté par un psychanalyste, Edmundo Gomez Mango, dans un bel essai récemment paru, « Un muet dans la langue ». Au cœur de l'expérience de la poésie, rapporte Gomez Mango, il y a la chose muette qui ne parle pas, qui est peut-être un arrière-pays, un ailleurs du langage, et l'émotion poétique s'éveille quand la chose muette nous parle tout bas. Pour Dubuchet, la chose muette hante le réel. Elle peut l'emporter de fond en comble et aussi bien être dans sa saveur, lui donner sa saveur, sa fraîcheur sensible, elle peut se loger dans la réalité la plus nue des choses, comme le rêve peut-être dans ce qui est. Aussi bien la poésie, il le dit dans Carnet, n'est-elle qu'un certain étonnement devant le monde et les moyens de cet étonnement. Le monde, le réel, la réalité, ce ne sont pas que des mots. Jamais n'est perdu au fil des livres le contact avec le concret, et souvent le plus concret. Comme s'il y avait, comme pour la langue, une relation perdue, une relation à renouer. De la belle ouvrage pour le poète, qui, loin de laisser le langage se refermer sur lui, ne dissocie d'aucune manière l'expérience de la parole de l'expérience du monde et de soi. C'est la réalité même, éternellement changeante et qui ne ressemble à rien, que nous désirons, écrit-il en 1963. Et dans un carnet, je me borne à ce que j'ai sous les yeux jusqu'au fond du ciel. L'étrangeté, donc, est ramenée dans le cadre du commun, l'immensité dans les limites d'une page où le monde est ce qui reste quand il ne reste presque plus rien. C'est ainsi que j'ai pris pied il y a si longtemps dans les pages de Dans la chaleur vacante. J'étais dans une poésie de survie, après je ne savais quelle catastrophe. Le vide avait été fait, et il s'agissait, puisqu'on respirait encore, de poser un à un les jalons d'une issue, en redécouvrant les mots, l'un après l'autre, pas à pas. L'acte d'exister et l'acte d'écrire, dans ces conditions, ne faisait plus qu'un. D'où, quelques années plus tard, avec « Où le soleil », les sorties du cadre généralement imparti à la forme poétique, une poésie de débordement, toujours active, toujours en cours, qui enflamme des riens endormis du langage pour réveiller leur sauvagerie. Tourner la page, prendre un autre livre, laisse l'incohérence rapide, retour sur le vent, verse combien d'autres titres à travers lesquels aujourd'hui je vois défiler la vie. Je les attendais, ces livres, ouvrais l'enveloppe avec le plus grand soin, pas question même de couper les pages s'ils n'étaient pas massicotés. À Neuilly, je les couvrais de papier cristal. Pour moi, il n'y avait rien de plus précieux. Pas une semaine sans que j'ouvre un livre d'André, et parfois même plusieurs, que j'étalais sur ma table pour écouter leur résonance et observer les réseaux de sens qui se dessinaient en ouvrant une pluralité de lectures. D'autres fois, je suivais à la trace, de livre en livre, la thématique serrée, mais qui jamais ne se refermait. Au début, prose et vers alternaient. Il y avait ces moments réflexifs sur des écrivains ou des artistes, toujours les mêmes, je les ai cités tout à l'heure. De même qu'il faisait une poésie pourtant grande ouverte avec peu de mots, André Dubuchet n'aura dialogué dans ses textes qu'avec un nombre extrêmement limité de personnes. Et d'un autre côté, les poèmes, proprement dit, deux versants d'une même montagne, où brillait la même langue et se retrouvait la même tension. Puis peu à peu, les frontières de genre se sont effacées. Un livre, prose et poème, ou plutôt poème et prose, en 1995, rassemble de façon manifeste ce qui était naguère séparé, aussi bien génériquement que chronologiquement, en ouvrant au texte qui le compose un espace entièrement neuf. Tentative d'élucidation et précipitation pure de l'ordre de l'accidentel, comme Dubuchet définit les poèmes, se rencontrent dans le même espace, parlant d'une seule voix et d'une seule langue. Le poème n'a pas l'exclusivité de la parole poétique, en vers comme en prose, ce qui compte, c'est la densité de langue, le rapport d'éveil à l'origine du texte et l'effet de surprise qui devance le sens, le niveau de tension qui ne fléchit pas, l'absence de métier, de moyens, de technique, aussi bien que la volonté inflexible d'échapper à toutes les certitudes qui fondent la parole. Lundi 21 juin, à Beaubourg, une conférence sur André Dubouché. Inutile de faire preuve d'imagination, je pressens ses réactions comme s'il était parmi nous. Lui qui avait les discoureurs en horreur, tous ceux d'ailleurs, romanciers ou poètes, littérateurs de toutes sortes, pour qui le langage est toujours disponible, jamais problématique, sans un grain de sable dans les rouages. Lisant L'Amant de Marguerite Duras, il me confia un jour, par exemple, n'y voir page après page qu'une surface totalement lisse, répétée du début à la fin, sans une rugosité, une aspérité, un obstacle, un mot inattendu auquel se raccrocher. Ce n'est pas demain la veille que son œuvre essuiera un tel reproche. Elle, qui est faite de mots que le sang irrigue et qui se soucie moins de littérature que des régions qui ne cessent d'être en nous élusives, insaisissables, toujours recommencées, ainsi qu'il l'écrivait dans un article sur Rimbaud, l'un de ses tout premiers textes qui date, on ne sait pas très bien, de 1946 ou de 1947. Une œuvre laissée à la solitude qui la détermine dans cette époque de grande dislocation, je lui emprunte l'expression que nous vivons, confinée dans le froid d'une fin de journée d'automne. Époque de relations perdues, je l'ai évoqué, tant au niveau de la vie sociale qu'à celui de la langue. Je veux détruire ce qui est détruit, répondait-il. Renverser le processus, aller à contresens des rapports de destruction. C'était vraisemblablement une façon pour lui de ne pas s'abandonner à la nostalgie ou à la déploration qui n'étaient pas ses amis. André Dubouché a écrit jusqu'à sa mort, le 19 avril 2001. Dans chacun des lieux que j'ai habités, j'ai toujours gardé pour ces livres la meilleure place de la bibliothèque, le rayon le plus visible, le plus accessible. Je crois les avoir tous. Ceux qui ont précédé notre rencontre, tirés à peu d'exemplaires, je les ai longtemps cherchés, remuant ciel et terre pour finalement me les procurer chez des libraires de bibliophilie au début des années 70. Un ami collectionneur compléta mon fonds en m'offrant des photocopies de tout ce qui avait paru en revue, poèmes et articles depuis la fin des années 40. Tous ces textes, je les ai tellement fait miens qu'il m'est arrivé à un moment de m'en éloigner, de ne plus regarder le fameux rayonnage, comme le fumeur qui vient d'arrêter de fumer évite de se trouver nez à nez avec un paquet de cigarettes. J'avais terriblement peur que les livres d'André ne se referment sur moi. Par la suite, faisant profession de lire toutes sortes de livres en vue d'interviewer leurs auteurs, et les lisant comme un voyageur dans un train regarde le défilement du paysage, j'ai rouvert des livres d'André, n'importe lequel, à n'importe quelle page, chaque fois que le chaos voulait l'emporter, et la moindre de ses phrases m'a toujours aidé à ne pas perdre pied. Il y a des feux qui ne s'éteignent pas.